Bonjour à tous. Alors, quand j'ai commencé ma carrière en 2000 en cybersécurité, on avait un. Déjà, ça ne s'appelait pas cybersécurité, ça s'appelait sécurité des systèmes d'information. Et ça, tout a changé quand ça s'est appelé cybersécurité. En gros, on faisait beaucoup de technologies. On avait un petit peu d'humains, avec des gens qui venaient configurer. Dans nos produits, on nous demandait d'avoir un rôle auditeur. C'était quelqu'un qui venait regarder les logs de temps en temps et qui faisait de la configuration. Et un petit peu de processus. Quand on est passé en cybersécurité, enfin, quand on est passé sur la cybersécurité, et surtout quand on a pris conscience que finalement, la protection ne suffisait plus et qu'il fallait ajouter la partie détection, il fallait être capable de pister les réseaux, de savoir ce qui se passait dans ces réseaux, parce que l'attaquant, de toute façon, avait à un moment donné les capacités de rentrer dans les réseaux. Ce triptyque de technologie, humain, processus, s'est énormément complexifié et le rôle de l'humain a énormément augmenté. C'est-à-dire que si vous regardez aujourd'hui dans la protection d'un système d'information, le rôle de l'humain est énorme. C'est-à-dire que on a des opérateurs SOC, on a des analystes, on a des hunters. Voilà, toute la partie recherche de vulnérabilité a pris et par l'humain, en fait, a pris une part très importante. Donc ce triptyque, en fait, on va dire, c'est équilibré entre la technologie, l'humain et, bien évidemment, si on veut faire fonctionner tout ça, les processus. Les technologies, elles aussi, foisonnent aujourd'hui. Avant, on avait des chiffreurs, des firewalls. Maintenant, on a de l'intelligence artificielle, des user behavior analytics, etc., etc. Et tout ça fait quelqu'un qui veut sécuriser un système aujourd'hui, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que on se retrouve avec un foisonnement de technologies. Faut savoir comment les sélectionner, faut savoir où les positionner, faut savoir comment les configurer. Est-ce que vraiment elles sont intéressantes pour mon système, pour la protection de mon système? Il y a beaucoup de marketing autour de tout ça. Je peux en parler d'autant plus facilement que c'est un peu mon métier. Beaucoup de marketing. Et quels sont les risques? Parce que je rajoute des technologies, mais finalement, je peux aussi augmenter les risques dans mon réseau. Deuxième partie, il y a la partie ressources humaines. Bon, tout le monde fait face aujourd'hui à la pénurie de talents en matière de sécurité. Donc, comment on va recruter les gens? Comment on va les former? Une fois qu'ils sont formés, comment on va les conserver, ce niveau ce niveau capacitaire? Comment on va les entraîner? Il faut aussi savoir les évaluer. C'est quoi leur qualité? Dans quelle partie ils ont plus de facilité? Et comment les motiver pour les conserver? Toute cette partie-là aussi est complexe. Les processus, j'ai des équipes qui doivent travailler entre elles, qui doivent discuter entre elles, etc., etc. Donc il faut, pareil, évaluer les processus, les tester et les faire évoluer. Et puis, pour ajouter un petit peu de sel là-dedans, on a rajouté la réglementation, avec des réglementations qui sont à la fois qui sont à la fois contraignantes, dans le sens où il faut se mettre en conformité, mais finalement la conformité est un peu complexe à comprendre. Et surtout, comment je prouve que je suis en conformité? Donc tout ça, c'est aujourd'hui un peu compliqué pour les gens qui ont sécurisé un système. Du côté des hackers, on avait des attaques. On a deux types. On peut faire une grosse dichotomie en fait au niveau des attaques. Et cette dichotomie existe aujourd'hui et on voit les deux types d'attaques auxquelles on a à faire face. La première, c'est l'attaque massive. L'attaque massive, NotPetya, WannaCry, pour les plus récentes. Cette attaque, en fait, elle est rapide, destructive, et elle nécessite un haut niveau de formation pour comprendre vite ce qui se passe et un haut niveau de résilience au niveau des réseaux. C'est-à-dire que pour éviter l'infection, dans ce cas-là, il faut réagir très très rapidement. Il faut avoir des équipes qui sont capables de déclencher des actes réflexes. Il faut avoir une architecture qui est résiliente à ce type de choses. Et pour vite arrêter la propagation et isoler la partie du réseau qui a été touchée. Deuxième type d'attaque, en fait, l'attaque furtive. L'objectif du hacker dans ce cas-là, c'est de passer en dessous des radars. Donc c'est en général d'être le plus discret possible, de se noyer dans le flux légitime du réseau. C'est une attaque qui va se passer sur des temps très longs. Donc ce qu'on va chercher à détecter là-dedans, c'est des signaux faibles. Donc on voit une dichotomie dans les outils, c'est-à-dire que les chaînes de détection aujourd'hui vont être différentes, vont très certainement devenir différentes. Dans un cas, on va chercher des signaux très faibles dans une grosse masse d'informations, donc chercher une aiguille dans une meule de foin. Dans l'autre cas, on va avoir un gros flux d'informations, on va avoir beaucoup d'informations, tous les voyants vont se mettre à clignoter, un peu comme dans un avion de ligne dans le vol Paris-Rio, où tout s'est mis à clignoter, et les pilotes n'ont pas su réagir. Donc sur l'attaque massive, c'est pareil, tout clignote d'un coup, et ben, il faut que les pilotes sachent réagir. Et les pilotes aujourd'hui, c'est les gens des SOC, les gens de l'IT, etc. Pour répondre à ces problématiques, il y a un outil qui est intéressant, qu'on voit se développer ces dernières années, que sont les cyber-ranges, en fait. Un cyber-range, c'est quoi? C'est un environnement de simulation qui va permettre de créer virtuellement des systèmes informatiques assez complexes, en conservant, et ça c'est un énorme avantage, en conservant un haut niveau de réalisme. Donc, en fait, sur un cyber-range, on va virtualiser l'environnement IT, on va dire, d'un client. Et sur cet environnement IT, on va pouvoir faire de l'entraînement, faire de l'évaluation et faire de la recherche. Qu'est-ce que c'est qu'un cyber-range techniquement? Si j'arrive à changer, voilà. Un cyber-range, c'est en fait un cœur technologique dans lequel on va trouver un système de virtualisation qui va permettre finalement de créer cet environnement virtuel. En complément de cet environnement de virtualisation, on va avoir un générateur de trafic. Je ne sais pas si j'arrive à... Si, on va avoir un générateur de trafic qui, lui, va permettre d'injecter des flux dans l'environnement virtuel qu'on a créé. Le CyberRange a le bon goût de pouvoir intégrer des produits réels. On va pouvoir travailler en mode hybridation. Alors, en mode hybridation, ça veut dire qu'on est capable de jouer des environnements virtuels avec des environnements réels, de mixer le virtuel et le réel. Et puis, autour de cette couche, de ce cœur fonctionnel, on va avoir des équipements, on va dire, annexes, l'administration de la plateforme, la partie stockage qui va nous permettre de stocker les topologies qu'on a créées, stocker les réseaux virtuels qu'on a créés, la partie gestion des accès. Alors, on a un lien ici avec la CTI, on en a un petit peu parlé hier, la CTI, donc c'est la Cyber Threat Intelligence, donc en gros, cette plateforme a la capacité de recevoir des sets de malware, etc., pour pouvoir jouer des scénarios et pouvoir injecter des malwares dans les réseaux. On a une capacité de gérer les apprenants, gérer les étudiants, et puis s'interconnecter avec des systèmes, j'en ai parlé. Et puis au-dessus de tout ça, on va définir des services, de l'entraînement, des challenges, des scénarios, etc. Donc voilà, c'est cet outil-là qui va nous permettre en fait de former et d'entraîner nos opérateurs. C'est vraiment, on peut faire une analogie avec le simulateur de vol. Donc, pourquoi on utilise un simulateur de vol pour former les pilotes, pour entraîner les pilotes? C'est pour les habituer à réagir aux situations imprévues. Aujourd'hui, un pilote, quand il vole, 99% de son temps, on peut dire, ou 95% de son temps, c'est en situation normale. Il y a pas. Mais par contre, quand il y a une situation anormale, il doit être capable de prendre prendre rapidement les bonnes décisions, de comprendre très rapidement ce qui se passe et de réagir sur des actions réflexes. On le fait sur simulateur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de risque pour les personnes et pour les appareils. Et il y a un autre intérêt, c'est l'aspect coût, qui finalement, on est moins cher sur un simulateur que sur un vol réel. Dans un cyber-range, c'est pareil. L'idée, c'est de se confronter à la réalité d'une attaque dans un monde immersif sans le rencontrer dans la réalité. C'est d'apprendre à réagir face à une attaque type massive, ou c'est apprendre à utiliser les outils pour chercher des informations dans le cadre d'attaques furtives. D'accord ? C'est d'apprendre à utiliser les outils, d'apprendre à comprendre ce qui se passe, d'apprendre à définir des règles de corrélation pour détecter des événements, des signaux faibles dans un environnement avec beaucoup de bruit. Sans risque sur le réseau de production, parce que faire des pen tests, faire des exercices sur un réseau de production, c'est complexe, c'est risqué, pour en avoir fait quelques-uns, on a déjà fait des tests sur des réseaux industriels, on a craché des éléments, et quand on a demandé est-ce que vous avez bien évidemment la sauvegarde du programme de l'automate, on nous a répondu non. C'est un peu ennuyeux sur un test sur un réseau de production. En maîtrisant les coûts de formation des opérateurs. Donc on fait de l'immersif, on prend nos équipes, on les met dans ce type d'environnement, on voit comment ils réagissent, on les met sous stress, ça permet d'anticiper l'arrivée d'une attaque. Alors si je reprends le framework du NIST, où est-ce qu'on peut utiliser un CyberRange dans ce framework? C'est bien évidemment dans la partie protection, parce que dans la partie protection, on va pouvoir tester de nouveaux produits, on va pouvoir tester des architectures, on va pouvoir tester des configurations de produits pour voir s'ils répondent à nos besoins, pour voir si l'équipement est efficient ou pas. Donc premier intérêt d'utiliser un CyberRange. Ensuite, ça on l'a bien compris, sur la partie détecte et réponse, où là on va faire des formations aux opérateurs, de l'entraînement, on va faire des challenges pour détecter des talents, pour confronter les équipes, etc. Et sur la partie répar, on peut aussi les utiliser, puisque on peut par exemple tester des parties du plan de remédiation sur le CyberRange avant de les mettre en production. On peut tester des patchs, le déploiement de patchs, etc. sur un CyberRange. Donc en gros, c'est un outil qui vient bien compléter aujourd'hui le panel d'outils dont on peut disposer en cybersécurité. Donc, en reprenant la problématique du petit bonhomme tout à l'heure qui se touchait la tête, sur les technologies, le CyberRange nous permet de faire des tests pour les évaluer. Donc, ça vient nous permettre de nous faire un avis sur certains produits. Sur les ressources humaines, l'organisation de challenge va nous permettre de recruter. La formation va nous permettre vite d'arriver à entraîner nos équipes, à former nos débutants. L'entraînement va nous permettre de conserver un avantage sur l'attaquant, d'apprendre à réagir avant que l'attaque arrive. Et l'organisation d'exercice va nous permettre de faire de l'immersif et nous mettre dans un mode stress pour, en cas d'attaque crise, voir comment ça se passe. Pour les processus, c'est pareil, les processus sont testés en cas d'exercice. Et la réglementation, je me dis que finalement la réglementation... Quand on demande à quelqu'un d'apporter les preuves que les mesures de sécurité sont mises en place dans les réseaux, pouvoir démontrer que les équipes sont passées sur des entraînements, pouvoir démontrer qu'on a fait des tests d'architecture, si on n'a pas pu les faire en production, sur certains réseaux de production c'est très compliqué, pouvoir démontrer qu'on a fait des tests d'architecture sur CyberRange et pouvoir produire les résultats de ces tests, ça peut aussi participer à montrer la bonne foi de l'opérateur dans le cadre de la réglementation s'il y a un problème. Alors, un exemple concret de ça, c'est par exemple l'entraînement d'une équipe d'une frégate. Alors, je vais essayer d'avancer parce qu'il y a une animation. Voilà, pardon. Hop, je reviens derrière. En gros, quand vous voulez former les opérateurs d'une frégate, jusqu'à hier, il fallait attendre que le bateau soit à quai. Déjà, un bateau, une frégate à quai, elle n'est pas tout le temps là. En plus de ça, un opérateur, quand vous le mettez sur un réseau de production et que vous essayez de le former sur un réseau de production, la première chose qu'il fait, c'est qu'il hésite à toucher à tous les boutons. Donc il est apeuré de casser son système. Donc on ne peut pas faire des tests, on ne peut pas les mettre en conditions, je dirais, les pires sur le réseau de production. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on virtualise en fait le réseau de la frégate, ou une partie du réseau de la frégate, et on entraîne les opérateurs sur CyberRange, et en environnement virtuel, mais très proche de la réalité. Et de cette façon, donc ils retrouvent en fait leurs équipements. Alors on est capable de coupler avec des équipements physiques, on utilise des simulateurs d'équipements de radio. On peut même aller jusqu'à intégrer des SCADA dans le système. Et on les confronte à des problématiques. On les met en mode stress. On intègre, alors là, c'est des opérateurs, on entraîne des opérateurs du réseau de communication. Et on rajoute de la cyber dans l'entraînement des opérateurs du réseau de com sur une frame. un gros intérêt, puisque là, l'opérateur est confronté à des choses qu'il n'a jamais rencontrées, qu'il risque de rencontrer dans la réalité, et qu'on met en œuvre par l'intermédiaire de, qu'on met en œuvre par l'intermédiaire d'un cyberange. Je discutais avec un responsable d'un SOC, dont je tairai le nom, et je lui disais, mais comment tu formes tes opérateurs? Comment tu les formes régulièrement? Il dit, oh, ils sont bien formés, on a une attaque la semaine dernière, ils sont très bien formés. En fait, pas de proactivité. On attend aujourd'hui dans un SOC, souvent, on attend que l'attaque arrive, et c'est comme ça qu'on apprend aux opérateurs à réagir. Avec un cyberange, finalement, on est capable de faire de la proactivité. On est capable de s'entraîner avant que les attaques arrivent sur des situations. La réglementation, j'en ai un petit peu parlé, ça c'est RGPD. RGPD nous demande des analyses d'impact des tests d'intrusion. On peut se poser la question de dire, dans certains cas, si les tests d'intrusion sont trop compliqués à mettre en œuvre, est-ce qu'on ne pourrait pas produire des éléments sur CR? C'est discutable, mais on peut regarder. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut former et entraîner sur CyberRange. Pour les sous-traitants, de la même façon, on peut demander des entraînements et de la formation des opérateurs sur CyberRange. Ça peut être intéressant. Il y a un petit peu de latence dans le système, voilà. Donc, en conclusion, je pense que le CyberRange aujourd'hui, c'est une brique nécessaire dans l'arsenal cyber pour répondre à l'évolution constante des attaques et avoir un coup d'avance finalement, un coup d'avance ou en tout cas être préparé à ce qui pourrait arriver pour tous les gens, tous les opérateurs cyber, que ce soit des opérateurs SOC, que ce soit des hunters, etc., que ce soit même des dirigeants pour de la sensibilisation, parce que c'est intéressant de faire venir des dirigeants pour faire de la sensibilisation sur CyberRange. Ça montre exactement ce qu'on est capable de faire. L'avantage, c'est qu'on peut jouer sur une partie virtualisée du réseau de l'entreprise. Ça permet finalement de compléter, pour l'aspect humain, les audits, parce qu'aujourd'hui, les audits d'homologation, les tests d'intrusion, c'est très bien pour toute la partie technologie, processus, mais, et le maintien en condition de sécurité aussi, mais quid de l'aspect humain? Comment on teste l'aspect humain? Les entraînements, les certifications sur CyberRange, c'est un peu l'équivalent d'un maintien en condition de sécurité pour l'aspect humain. En fait, du maintien en condition de sécurité, finalement, ce que vous faites, c'est que votre réseau, enfin, vous allez le patcher, etc., pour que votre réseau continue à conserve son niveau de sécurité. Et ben, avec des entraînements sur CyberRange, vous vous assurez que votre équipe conserve son niveau de sécurité et conserve son niveau de maturité face à la menace. Donc dans la réglementation, on pourrait imaginer une certification sur CyberRange au même titre qu'on le fait pour les pilotes de ligne. Alors, les problèmes de ça, bien évidemment, c'est comment garantir la qualité des entraînements sur CR, parce que vous êtes bien conscient quand on parle de ça, un CyberRange, c'est à la fois une technologie, mais c'est beaucoup de contenu, c'est beaucoup de le training, les formations, etc., c'est du contenu. Donc, il faut garantir la qualité de ce contenu. Parce que sinon, vous allez avoir l'impression d'avoir une équipe qui est formée parce qu'elle est passée sur CyberRange, mais en fait, ils ont fait des tests tellement basiques que c'est contre-productif. Ensuite, définir des modèles d'évaluation, au sens à la fois comment je valide la qualité de mes opérateurs, comment j'évalue mes opérateurs, et si possible au niveau national. Puis dernier point, c'est que si on commence à parler d'évaluation, on va finalement pointer du doigt certaines personnes. Donc comment on évalue individuellement tout en conservant l'esprit d'équipe? Alors j'aimais bien cette petite phrase d'Einstein qui dit « La connaissance s'acquiert par l'expérience et tout le reste n'est que de l'information ». Je pense que dans le cadre de la CyberRange, ça s'applique plutôt pas mal, puisque c'est vraiment là maintenant de l'expérience qu'on acquiert en jouant sur ce type d'outils. Ça ne viendra jamais remplacer complètement l'arsenal classique de cyber, mais ça vient le compléter sur certains aspects qui sont aujourd'hui, à mon avis, c'est un peu un chaînon manquant pour l'aspect humain. Donc pour éviter de sauter dans le vide sans parachute, comme on le fait aujourd'hui en prenant des opérateurs SOC et en leur disant bon ben tu vas réagir, tu vas être confronté à une attaque, on va voir comment ça se passe. Ben finalement, le cyber ranch, c'est un petit peu un parachute qui permet de rassurer les gens et de se rassurer soi-même sur la qualité de ses process, sur la qualité de son équipe et sur potentiellement les architectures et les technologies qu'on a mis en œuvre. Voilà, j'en ai fini. Si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus.
On a le temps, oui, pour une ou deux questions avant la prochaine intervention. Ah, oui. Sur la droite, pardon. C'est juste à gauche.
Voilà. Merci, Christian Fizane, DG Maîtrise de l'Information. Pour revenir justement sur l'aspect contenu, au-delà du produit CyberRunch, comment vous faites évoluer tous les scénarios d'attaque qui sont forcément très foisonnants dans le monde réel?
Alors, le contenu, c'est la grosse question. Aujourd'hui, effectivement, votre question est très intéressante parce qu'en fait, on voit qu'on a des clients qui nous ont acheté la plateforme, enfin, qui ont pris les plateformes, des clients en France et à l'étranger. Et une fois qu'ils ont eu la plateforme, ils se sont rendus compte, c'est super, sur le papier, c'est un magnifique outil, mais bah, il faut les gens pour le créer, ce contenu. Il faut le mettre à jour, c'est pas immédiat, etc. etc. Donc c'est vraiment là qu'aujourd'hui les solutions pêchent. Il y a deux endroits où les solutions pêchent, c'est sur le contenu et sur la gestion des étudiants. Pour l'aspect contenu, nous ce qu'on fait, c'est qu'on a ouvert un cyberlab en Belgique et on dédie cette équipe de cyberlab. Donc c'est un cyberlab, c'est en fait des bureaux dans lesquels on a un cyber-range et des salles dédiées à ça. Et on dédie cette équipe à la création de contenu. Donc, et on le lie, comme je l'ai montré tout à l'heure, à notre capacité de threat intelligence. Et donc c'est un échange entre la capacité de threat intelligence, la boucle avec nos hunters, qui vont en fait abreuver l'équipe qui, elle, va créer les contenus et créer les formations associées. Donc c'est comme ça qu'on arrive à créer du contenu de qualité et à le maintenir pour je dirais, nos clients.
Non, pas d'autres questions? Ah, pardon, je regarde toujours en haut, c'est pour ça que j'ai du mal à voir les premiers.
Oui, bonjour.
Je ne vous vois pas. Ah, pardon.
Est-ce que vous avez développé des métriques pour justement évaluer l'acquisition des connaissances sur CyberRange?
Alors, on commence à regarder, effectivement, les métriques qu'on va trouver, c'est temps moyen de détection, temps moyen de compréhension. Enfin, au moment où on lance l'attaque, on va regarder quand l'équipe a commencé à détecter les signaux. Une fois qu'elle a commencé à détecter les signaux, en combien de temps elle va comprendre ce qui se passe, et après le temps moyen de réaction et de remédiation. D'accord. Donc, c'est des métriques basiques. On travaille là-dessus. Ça complète un peu la question sur la gestion des étudiants. Mais c'est les premières métriques qui nous semblent intéressantes pour mesurer finalement le temps. Entre le moment où on a pour voir la capacité de réactivité de l'équipe, quoi. Parce que c'est pas tout détecté. Une fois qu'on a détecté, il faut comprendre. Une fois qu'on a compris, il faut savoir comment remédier, etc., etc. Donc ça, c'est les premiers métriques qui nous paraissaient les plus intéressants.
Une question là-haut aussi, je pense. Oui.
Oui. Tout à l'heure, vous avez donné l'exemple avec une comparaison avec les simulateurs de vol. En termes de coûts par rapport à l'entraînement des pilotes, ça coûte beaucoup plus cher, ça coûte beaucoup moins cher. Et est-ce que le retour d'investissement est aussi direct que ce qu'on pourrait imaginer, en tout cas dans le domaine de l'aéronautique?
Alors, je ne sais pas où vous êtes. Ah, pardon, là-haut. Okay. J'ai juste une lumière. En fait, je fais l'analogie avec les simulateurs sur de vol. Par contre, j'ai pas été regarder le coût. Alors, j'aurais pu parce qu'effectivement, Thales Training and Simulation qui font des simulateurs de vol. J'ai pas été comparé en fait au coût d'un simulateur de vol. Mais là, je pense qu'on est plus proche de coût. Alors, ça, tout dépend de comment vont fonctionner les gens. comment veulent fonctionner nos clients. Si on doit simuler leur IT sur CyberAngel, il y a une part qui va consister à aller faire des relevés, on va dire, chez nos clients pour recréer en fait l'environnement, de sélectionner les produits, etc., d'être capable de recréer l'environnement de nos clients sur notre CyberAngel. Et après, c'est des coûts qui sont plus proches de coûts de formation ou de choses comme ça, quoi. Donc, je pense qu'un coût sur simulateur, c'est quand même plus élevé que ce qu'on ferait sur CyberAngel. Comme ça, implicite. J'ai pas vérifié. Je pourrais regarder si vous voulez.
C'est bon. Écoutez, merci beaucoup, monsieur Hébert, pour votre intervention. Oui, on peut l'applaudir.